Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 67, chapitre 10. L'ironie et la politesse du désespoir, c'est ça? Je ne connaissais pas, mais c'est pas mal trouvé, oui. Une idée avait germé dans ma tête, qui me tracassait, que je jugeais inexprimable, et que je ne parvenais pas à chasser. Et si on admettait qu'il y ait une chance, qu'il y ait quelque chose après la mort, toi et moi? Après tout, tu as commencé cette recherche spirituelle avec les bouddhistes. Ça m'arrangerait bien, oui. Et ceux qui t'aiment seraient heureux de le savoir. Ça va être difficile à moins que je ne vienne leur gratter les bouts de pied dans leur sommeil. C'est à peu près ce que je voulais te demander. C'est moi la mourante, mais c'est toi qui débloques. Tout d'abord, je ne crois pas que tu sois mourante, mais imaginons et à supposer qu'il n'y ait pas de remède à ton problème. Je continuais, avant que le mot que je ne voulais pas prononcer ne sorte de mes lèvres. Elle ne voulait pas d'apitoiement. Il fallait garder le cap. Toutes ces histoires d'esprit sont difficiles à croire d'emblée, mais même s'il existe une chance infime qu'elles soient réelles, il peut être important d'en tenir compte. Tu ne crois pas? C'est presque une démarche scientifique. Admettons. Une secousse ne me permit pas d'entendre la dernière réplique de ma passagère. J'allais quand même plus avant. Et si on faisait une sorte de pacte, tous les deux? Laisse-moi deviner. Je crois que je vois où tu veux en venir. Si la vie après la mort existe, ce serait bien que je te laisse un petit message. C'est ça? Je sais, cela paraît absurde, mais je voudrais que tu le considères comme une simple hypothèse très, très lointaine. Après cette retraite, je fis deux choses importantes. Je commençais à méditer, au début 15 minutes par semaine, puis plus souvent. Je n'y trouvais ni un plaisir, ni une impatience, mais cela me paraissait, comment dire, aller de soi. Et je lus le livre tibétain de la vie et de la mort. Je fus littéralement fasciné. Je le téléchargeais le lendemain de mon retour de la retraite de Lourine. Lisangela m'en avait conseillé la lecture après nos échanges sur l'ultime preuve que je proposais d'obtenir. L'auteur, Sogyal Rinpoche, avait lui aussi une démarche pragmatique comme celle que Kardec avait défendue et que j'essayais de suivre. J'avais pris mon ordinateur portable au lit et avais ouvert le fichier pour un examen général après une journée qui ne m'avait pas permis de me remettre complètement du week-end. Aussitôt, les phrases me parurent limpides, défaites des oripeaux orientaux ou tibétains que je craignais. L'auteur avait fait ses études à Cambridge et cherchait à toucher un public occidental. « Où que j'aille en Occident, écrivait-il, je suis frappé par la grande détresse psychique que provoque la peur, avouée ou non, de mourir. » Je repensais au livre de l'historien Philippe Ariès, « L'homme devant la mort ». La mort se cachait au XXe siècle en Occident. Plus elle intervenait tardivement, plus on la refusait. Les antichambres de la mort, qu'étaient les hôpitaux et les maisons de retraite, étaient exécrables. J'aimais le fait que Sogyal Rinpoche affirme que le Christ et le Bouddha étaient tous deux des manifestations de la vérité, apparues par compassion sous des formes différentes, afin d'aider les êtres. Je lus une cinquantaine de pages d'une traite, comme si j'avais enfin dans les mains un livre depuis longtemps recherché, avant de m'endormir d'un sommeil sans rêve. Le lendemain soir, de retour de l'université, je m'apprêtais à dîner devant mon ordinateur et le livre tibétain de la vie et de la mort, quand mon interphone sonna. La visite annoncée me surprit. C'était Julia Pastor. Quelle bonne surprise, lui dis-je en l'embrassant sur le pas de la porte, quelques minutes après qu'elle eût été annoncée que l'ascenseur devenu efficace avait été utilisé pour transporter la visiteuse. Je suis venu t'apporter l'invitation pour mon vernissage, tu te souviens? Bien entendu, je m'en souvenais, en fait pas vraiment, mais je m'arrangeais pour lui faire redire. C'était l'expo collective dans son université dont elle avait parlé lorsqu'elle était venue avec sa mère. Cette petite avait de la suite dans les idées. Voulait-elle partager mon dîner? Elle rougit, comme si cela lui paraissait inconvenant. Il est vrai que son père, sa mère, son frère, qui sais-je encore, auraient peu apprécié cette visite à un homme qu'elle connaissait à peine. Elle accepterait au moins un verre? Je dois avouer que l'idée de garder encore un peu cette jolie fille m'émoustillait. Je me demandais bien quel était le véritable motif de sa visite.